des fuites radioactives, mais on n'est pas dans une catastrophe. La catastrophe, ça serait la fusion du réacteur et surtout la rupture de cette enveloppe qui enserre le réacteur.
Vous êtes, Éric Besson, un ardent défenseur du nucléaire. Est-ce que cette catastrophe ne remet pas en cause aujourd'hui quelques-unes de vos certitudes ?
Ben, je suis un ardent, je vous laisse juger. En tout cas, je crois que le nucléaire civil apporte à notre pays.
Jusqu'ici, tout va bien.
C'est que le risque zéro en matière d'activité humaine et singulièrement en matière industrielle n'existe pas. Donc le risque zéro n'existe pas. En revanche, vous pouvez prendre toutes les précautions requises et convenons qu'à ce jour, en France, ça a été plutôt bien fait.
Par ailleurs, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment du réacteur numéro 4 après une explosion d'hydrogène. Un incendie qui aurait été maîtrisé. Mais ce qui est surprenant, c'est que jusqu'à hier soir, l'opérateur de la centrale annonçait que ce réacteur ne posait pas de problème. À Fukushima Daiichi, il y a 6 réacteurs. 3 étaient en maintenance au moment du séisme. Visiblement, au moins l'un d'entre eux avait encore besoin d'être refroidi.
Jusqu'ici, tout va bien.
Bonsoir à tous et à toutes. C'est la rentrée du Canu Info du jeudi. Nous sommes très heureux, très heureuses de vous retrouver pour une nouvelle saison 2014-2015. Pas beaucoup de changements dans cette équipe, hein, voire aucun changement. Nous allons retrouver l'écolo fou. Les pro-nucléaires le détestent. Et oui, Laurent, tu es toujours avec nous pour ce Canu Info du jeudi. J'espère que tu vas bien. Nous sommes partis en vacances. En tout cas, on a fait un congé intellectuel pour ce Canu Info, mais l'actu, elle s'est pas arrêtée et on peut dire que les choses ne s'améliorent pas à travers le monde, hein, des conflits, des guerres, des pandémies. Enfin, tout va bien à travers le monde. On saluera particulièrement ce soir Monsieur Macron, notre nouveau ministre préféré. Hein, très content de rencontrer cet homme.
Un ancien banquier de Rothschild, la banque Rothschild, c'est quand même la classe internationale pour le parti socialiste soi-disant de gauche d'avoir choisi un banquier en ministre de l'économie. Moi, je dis bravo, bravo, bravo. On est content d'être rentré dans un pays de droite.
Et pour faire l'équilibre, question équité entre l'homme et la femme, nous saluerons ce soir Madame Lagarde. Christine, si tu nous écoutes, bien à toi, comme on dit dans les mails de nos jours. Ça nous fait marrer, on espère qu'à un moment quand même ça finira par te tomber sur le bout du nez, hein, parce que ça te poursuit ces histoires de justice et de fric. Voilà, en tout cas tu as toujours une place avec un trône pour l'instant, Madame Lagarde. On espère qu'un jour tu en tomberas et l'actualité évidemment elle est riche. On commencera, vous vous en doutez, si vous avez l'habitude de nous écouter, par une page israélo-palestinienne. On parle évidemment de ce qui s'est passé cet été, de la situation aujourd'hui. On passera par le Liban où ben ça flambe aussi. On fera un petit tour par la rentrée du capitalisme. Et puis nous aurons notre rubrique ni Dieu ni maître encore pour cette nouvelle saison. On fera un petit tour des expositions qui nous ont plu lors des rencontres d'Arles 2014, parce que c'est pas fini et vous pouvez encore y aller. On parlera de Monsieur Valls, autre nouvel ami hein, pour cette saison 2014-2015. Et puis on fera un petit tour par une page plus écolo, avec évidemment un peu de nucléaire. Mais tout de suite, je te laisse nous parler de Gaza.
Oui, alors juste après cette fameuse trêve annoncée mardi dernier, les concours de propagande sont à l'œuvre et les deux camps s'estiment avoir gagné cette fameuse guerre. Donc les deux camps, c'est bien évidemment le gouvernement israélien contre le Hamas. Donc voilà, chacun a gagné. Ce qui est bizarre, c'est que on avait l'impression que plutôt que personne n'avait gagné, mais que le Hamas avait quand même eu certaines revendications qui étaient abouties, hein, en tout cas. Mais c'est pas ce que dit le premier ministre israélien, puisqu'il explique « Il n'y a pas de doute, je le cite, Israël a gagné, le Hamas a été sévèrement battu comme jamais depuis sa création, le Hamas n'a obtenu aucune de ses revendications. » Et là, Netanyahou, après cette déclaration, énonce la liste. Effectivement, ils n'ont pas eu de port, ils n'ont pas eu d'aéroport, et ils n'ont pas eu de libération de prisonniers. Mais quand même, ce qu'il oublie, M. Netanyahou, c'est que le blocus qui durait depuis 7 ans a été partiellement levé, ce qui est une énorme victoire quand même pour les Gazaouis. Malheureusement directement aussi pour le Hamas, mais c'est pas le but, hein. C'est vraiment une victoire pour les Gazaouis. La partie en lien avec l'Égypte a été rouverte. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les pêcheurs ont gagné quelques milles. Alors ils n'ont pas encore le droit à l'accès à la mer totale. Faut pas non plus délirer, mais ils ont gagné quelques milles pour pêcher un peu de poisson s'il en reste dans cette mer Méditerranée. Donc voilà. Quant au reste, c'est-à-dire le port, l'aéroport et la libération des prisonniers, c'est dans la prochaine négociation, hein, puisque cette trêve qui se veut entre guillemets définitive va entraîner des nouvelles négociations. Donc voilà, ce qu'on notera, c'est que des deux côtés, la population a soutenu ses leaders, puisque Benjamin Netanyahu, même s'il a chuté dans les sondages à la fin, grosso modo, quand on interroge, des sondeurs ont interrogé la population israélienne, 89% de la population, donc 83% de la population était satisfaite de l'armée israélienne. Hein, donc 83% des Israéliens interrogés se satisfont de l'assassinat des 500 et quelques enfants. Ça, moi, je ne comprends pas bien ce qu'on peut dire. Et comment on peut dire ça. Et de même, de l'autre côté, les Palestiniens, à peu près la même question, ce qu'ils soutiennent, ce qui s'est passé, ils disent à 88,9% soutenir cette guerre qui leur a permis, effectivement, pour les Gazaouis, de gagner un petit peu de liberté, surtout de pouvoir à nouveau de sortir de cette prison, hein, qu'est la bande de Gaza. Donc voilà, grosso modo, si on fait le bilan, on aurait tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de victoire, même si effectivement le Hamas en sort un petit peu plus fort et Israël un petit peu plus ridicule, notamment au niveau international, hein, puisque on n'a pas regardé les informations américaines, mais sur les chaînes françaises, Al Jazeera ou sur pas mal de médias, 500 enfants qui sont assassinés par une armée. Ça fait réagir et c'est difficile de soutenir un pays qui tue des enfants, qui tue des civils volontairement. Hein, il y a cette fameuse histoire où l'armée israélienne demande aux gens d'évacuer et notamment d'aller dans les écoles de l'ONU. Et quelques jours plus tard, l'armée israélienne bombarde ces écoles de l'ONU alors qu'ils savent que c'est les populations qui sont réfugiées dedans. Voilà, c'est difficile après de défendre sa guerre. Et effectivement, je pense qu'au niveau médiatique et au niveau international, Israël a plutôt pris une claque dans la gueule, parce que ils ont pas fait une guerre contre des combattants, ils ont fait une guerre contre une population civile, contrairement au Hamas, même s'il y a eu quelques morts civiles au niveau israélien, qui sont bien évidemment à déplorer, l'essentiel des morts au niveau israélien, c'est des militaires, c'est des gens qui sont venus pour les tuer, et donc les autres, ils se sont défendus. On en est plutôt à cette échelle-là.
Pour rebondir sur les médias, vous pouvez lire un article très intéressant paru récemment sur le site de l'Acrimed qui revient justement sur le traitement donné par la presse britannique au conflit à Gaza. Et c'est intéressant parce que l'article est évidemment assez critique, ça vient d'un site anglophone. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement ils ont été très en retrait et par exemple ne donnaient des informations, certains sites ne donnaient des informations que lorsque se passait la mort d'un enfant en Israël. Donc c'est aussi une analyse qu'ils en ont faite. Voilà, je vous renvoie donc au site de l'Acrimed sur internet.
On notera quand même que B'Tselem, qui est une association de défense des droits de l'homme dans les territoires occupés, qui est une association israélienne, quand on les avait interviewés l'année dernière, ils nous avaient dit qu'ils y subissaient pas trop de pression de l'État israélien. Et ben cet été, ça a été différent, puisqu'ils ont eu à un moment une très légère interdiction avant que les médias s'emparent de l'affaire et que le gouvernement israélien soit obligé de revenir dessus. C'est suite à ce qu'on avait annoncé au mois de juillet, aujourd'hui, ça y est encore sur le site, où défile le nom de tous les enfants palestiniens assassinés par l'armée israélienne. Et ça n'avait pas plu du tout à l'État, qui s'en est pris donc à cette association de défense des droits de l'homme. Hein, du coup, c'est un truc quand même gentillet, une association de défense des droits de l'homme, mais ça ne plaît pas du tout ni à l'armée israélienne, ni à l'État israélien. avec pas mal donc de recul. On notera quand même qu'à la fin, il y a eu une mobilisation en Israël contre la guerre qui a été un peu plus importante que d'habitude. Alors on est très très loin des vraies mobilisations comme il y a de nombreuses années sur la, pour la paix. C'est un peu fini, hein, mais il y a quand même eu un petit sursaut des gens de, essentiellement d'extrême gauche d'ailleurs, pour défendre une autre vision d'Israël, parce que là effectivement les Israéliens maintenant sont quand même perçus comme des monstres pour avoir soutenu et pour leur armée qui a bombardé essentiellement des civils. Alors, on a beaucoup parlé de Gaza cet été et un peu moins de Cisjordanie. Pourtant, pendant ce temps, il se passait plein de choses. Alors d'abord, il y avait des manifestations et elles ont été pas mal réprimées. Donc si on fait le bilan de tout ce qui s'est passé en Cisjordanie, arrestations, expulsions, démolitions de maisons, machin comme d'habitude, on est quand même à 2139 Palestiniens blessés par l'armée israélienne en Cisjordanie. Deux enfants assassinés. Et 15 adultes tués par la même armée d'occupation israélienne, essentiellement d'ailleurs lors de manifestations pour soutenir la bande de Gaza. Donc voilà, ça, bon, alors ça c'est lié à l'actualité récente, mais pendant le même temps, les colons ont continué de faire leurs exactions. Ils ont par exemple pris le contrôle de deux villages, ils ont continué d'attaquer, de voler des terres, il y a eu des destructions de maisons, voilà, et ils ont, comme d'habitude, été protégés par l'armée israélienne. Alors, je vais pas détailler tout ce qui s'est passé cet été au niveau de la Cisjordanie, mais ce qu'on notera, c'est que pendant que l'armée faisait la guerre à Gaza, le reste de l'armée continuait de soutenir la colonisation et les colons qui voilà, continuaient de faire souffrir les populations palestiniennes.
Oui, il faut savoir qu'il y a eu un soutien dans toute la région, en Jordanie. Comme en Cisjordanie, il y a eu des appels au don du sang qui ont été faits, qui ont été menés. Évidemment, il y a des appels à soutien financier. Il y a de l'envoi matériel qui a été fait. À Amman, il y a eu des manifestations au mois d'août qui ont rassemblé près de 15 000 personnes. Alors, c'est des proches des frères musulmans. Donc voilà, il y a quand même une certaine activité. Puis, il y a, comme tu disais tout à l'heure, des organisations qui essayent, elles aussi, de mener des actions à Gaza. Et alors, y en a qui sont pas très contentes. C'est par exemple Amnesty International, qui ont bien des soucis, hein, comme Bethlehem, pour intervenir à Gaza. Alors, ils n'arrivent tout simplement pas à y rentrer. Alors, ils sont pas les seuls, hein, c'est pas la seule organisation. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette position dans laquelle se retrouve Amnesty International, c'est qu'ils expliquent qu'ils aimeraient faire un état de lieu de tout ce qui s'est passé, y compris du côté du Hamas. Parce que, par exemple, ils estiment que quand ils ont envoyé leur roquette, ils n'ont pas vraiment non plus fait attention au fait qu'ils pouvaient toucher des civils, qu'ils sont suspectés d'avoir caché des armes dans les écoles. Donc Amnesty dit qu'elle aimerait bien tout savoir et que elle comprend pas pourquoi du coup Israël ne laisse pas rentrer l'organisation dans cette enclave, puisque ça permettrait évidemment d'en savoir plus, mais évidemment d'en savoir plus aussi sur ce qui s'est passé, sur les faits provoqués par l'armée israélienne. Donc comme toujours, on a un État qui fait une langue de bois, qui veut surtout pas que les organisations viennent mettre leur nez dans cette affaire. Alors ce qui est très drôle, c'est que Amnesty explique qu'ils ont demandé à passer par le passage d'Erez, et les autorités ont répondu que le passage était fermé, mais en fait pendant ce temps il y a des journalistes qui passent, il y a du personnel médical qui passe, qui ont pu faire les allers-retours, donc eux se retrouvent eux et elles d'Amnesty International à la rue. Ils ont demandé aussi aux autorités égyptiennes un droit d'accès qu'ils n'ont pas obtenu non plus. Donc ils sont en attente. Alors par exemple, il y a des choses qu'ils aimeraient bien savoir, c'est le comportement de l'armée israélienne face au personnel médical en intervention à Gaza. Il y a un certain nombre de témoignages qui ont été rapportés par les équipes sur place, les équipes médicales, hein, les soignants, où ces témoignages expliquent que les ambulances, même si, quand elles sont siglées, certaines ont été visées, qu'un hôpital a été visé quand même toute une journée, alors qu'il y avait des opérations en cours, une femme qui a accouché à l'intérieur. Enfin, je vous laisse tenter d'imaginer ce que ça peut être quand même d'être dans un lieu de soins, de repli et d'être sous les bombardements à ce moment-là. Moi, j'ai un peu du mal, je vous avoue, j'essaye de le faire, mais c'est difficile. C'est en lisant ces témoignages sur le site d'Amnesty International que vous pourrez peut-être comprendre un peu mieux. Donc voilà, ils s'intéressent à ce genre de choses, c'est pas la seule organisation, mais Israël continue à faire la sourde oreille et à bloquer vraiment les choses et à vouloir contenir évidemment toute cette information par une très forte propagande.
Alors, dernière info que j'ai découvert cet été, j'avais pas trop fait attention à ce qui s'était passé, mais c'est quelque chose qui a été très médiatisé en Israël et a priori un petit peu chez nous aussi. Mais on va revenir dessus, c'est sur le mariage de Mahmoud et Morel. Ils se sont mariés le 17 août dernier au sud de Tel Aviv, dans une banlieue très exactement. Et donc ils pensaient faire une journée un peu exceptionnelle, voilà, le mariage, beau jour de leur vie, tout ça, machin, ils étaient prêts à être dans le bonheur total, sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque une organisation qui s'appelle Lehava, qui veut dire la flamme, une association de droite et d'extrême droite, ou plutôt d'extrême droite d'ailleurs, israélienne, qui lutte contre le mariage de personnes de juifs avec des non-juifs, hein, grosso modo c'est ça le thème de l'association. C'est une association donc ouvertement raciste. Et ils ont décidé de perturber ce mariage puisque Morel s'est convertie, c'était une juive, et elle s'est convertie à l'islam pour se marier. Alors on rappelle quand même les faits aussi. On ne sait pas du tout pour quelle raison elle s'est convertie, si c'est qu'elle est devenue vraiment croyante, c'est-à-dire musulmane, ou c'est plutôt pour se marier, puisque en Israël, on ne peut se marier que religieusement, donc faut être absolument de la même religion que son futur époux ou sa future épouse. Donc voilà, ça complique la donne, donc c'est peut-être pour cette raison.
Sinon, il faut aller à l'étranger et ensuite faire reconnaître son mariage civil. C'est pas tout à fait simple.
Voilà. Il s'est converti et le jour de son mariage, grosse manifestation, au moins 200 personnes, de petits fachos israéliens, vêtus de t-shirts au slogan raciste, en hurlant des propos du genre « mort aux Arabes, que votre village brûle » ou des choses comme ça, sont venus perturber le mariage. De l'autre côté, il y avait des supporters au couple. Comme ça a été très médiatisé, il y a eu un peu de camps et supporters qui distribuaient des roses à ceux qui venaient. Mais du coup, le couple ont été obligés d'avoir des gardes du corps qui contrôlaient les invitations pour pas qu'il y ait de dangereux personnages qui rentrent dans le mariage. Alors, le marié avait demandé au tribunal d'interdire la manifestation et le tribunal avait refusé en demandant juste à ce que la manif ait lieu à 200 mètres de la salle de réception. Mais le problème, c'est que tous les invités étaient obligés de passer au milieu de la manif, donc avec des cordons de flics partout. Enfin voilà, la haine était vraiment très très présente. Et alors, c'est pas la première fois que Lehava fait parler d'elle, cette organisation, puisque elle avait déjà été un petit peu célèbre en envoyant une lettre au mannequin qui s'appelle Bar Refaeli, qui est donc juive, israélienne, et qui était en relation avec Leonardo DiCaprio. Donc là, c'était pas parce que elle allait se marier ou elle pouvait se marier avec un arabe, mais avec un catholique, donc ça ne plaisait pas non plus. Elle est raciste envers tout le monde, grosso modo, cette association. Il y a eu d'autres faits aussi. L'association avait relayé la lettre de 27 femmes de rabbins qui avaient appelé, à travers un manifeste, les femmes juives à éviter toute relation avec les Arabes. Donc voilà, il y a un climat de haine en Israël. Alors, une partie des infos était reportée par le journal israélien Haaretz, qui rappelle d'ailleurs que même si là le président israélien était un peu choqué par ce qui s'est passé par cette manifestation, on rappelle que c'est facile d'être hypocrite puisque cette organisation raciste est soutenue par l'État. Elle a reçu plusieurs fois des subventions, notamment en 2011, 175 000 euros de subventions, de dollars plutôt, donnés par l'État israélien. Donc voilà, la haine est vraiment très très présente et on se demande comment on peut construire une société où une partie de la population déteste une autre partie de sa population, puisqu'on rappelle, aujourd'hui, dans l'État israélien, il y a 20% d'Arabes israéliens qui n'ont donc pas la même religion. Il y a quelques pourcents aussi de chrétiens qui en prennent d'ailleurs aussi un peu plein la gueule, un peu moins. D'ailleurs, au Proche-Orient, hein, les chrétiens et les musulmans et les athées palestiniens ont toujours été plutôt ensemble pour dénoncer la colonisation, notamment israélienne. Donc voilà, allez, un petit dernier mot sur la région. On va parler de ce qui se passe au Liban. C'est la deuxième attaque qui a lieu dans cette région de Hersal, puisque des combats à l'arme lourde, donc des choses sérieuses, entre une patrouille de l'armée libanaise et les dingues, on va dire, hein, de islamistes qui viennent de Syrie essentiellement. Du califat, comme ils se proclament eux-mêmes. C'est relativement inquiétant. C'est arrivé le 2 août déjà, il y avait une mobilisation. Alors le 2 août, ils avaient d'abord, l'État libanais avait arrêté un djihadiste, et suite à ça, effectivement, ses copains djihadistes syriens étaient rentrés, ça avait cartonné. Ce qu'on notera, c'est que il avait été reproché assez rapidement au Hezbollah de pas défendre son pays. Alors ils font la guerre contre les islamistes et, en Syrie, mais au Liban, quand les islamistes y viennent, le Hezbollah n'était pas là. Donc le Hezbollah était revenu intervenir pour aider l'armée. Bon, là, c'est à nouveau tendu et on a à nouveau des incursions de djihadistes en Syrie, au Liban. Donc voilà, c'est pour dire que le Liban, c'est un pays qui est toujours en permanence au bord de l'explosion, que ce soit en interne ou en externe avec cette frontière syrienne et le Hezbollah qui va se battre du côté de Bachar el-Assad, mais contre les djihadistes, puisqu'ils ne sont pas dans le même camp.
Alors on va parler de toute autre chose maintenant, on va parler un petit peu de capitalisme et on va commencer avec la grosse connerie, on va le dire comme ça, de la semaine, côté économie, c'est Zara. Alors Zara vous connaissez certainement, c'est une marque de vêtements qui fait homme, femme, enfant comme on dit, hein, de textiles évidemment pas trop chers et qui se veut mode. Alors ça se veut mode, tellement mode que ben oui, il y en a, ils ont pas bien réfléchi. Alors vous savez, c'est aussi des manières de faire. Maintenant on va des collections, ça, elles vont très très vite, ouais. Elles restent pas en magasin et tout va très très vite, et c'est peut-être ce qui peut expliquer en partie la mauvaise construction de ce produit, on va le dire comme ça. Il s'agissait donc d'une marinière à rayures, hein,
tout, mais, ce qui est, ouais, pas blanche,
pour enfants, bleu et blanche,
gris et noir, on va dire.
Ouais, enfin bon, avec
typique du, enfin la marinière, les couleurs et les rayures, la même chose un peu que le costume des juifs qui sont sortis des camps de concentration, faut quand même le dire.
Ouais, pas tout à fait, mais enfin, il faut savoir qu'effectivement était accolée sur cette jolie petite marinière pour enfants, manche trois quarts, une belle étoile
jaune.
Alors,
c'était horrible quand même.
Ce qui est intéressant, c'est aussi comment on en est arrivé là, c'est évidemment la magie d'Internet. C'est-à-dire que la photo étant ce qu'elle est, eh ben, on voit d'abord une marinière avec une étoile jaune et on ne voit absolument pas le produit originel, c'est-à-dire une étoile de shérif.
Oui.
Mal faite, évidemment, hein, c'est quand même du sous-produit textile, hein, c'est pas non plus de la grande qualité, ça n'a pas dû être bien fait. Et puis en plus, c'est vrai que quand on est sur Internet et si l'image n'est pas très bonne, eh ben, tout de suite, on avait cet uniforme de prisonnier siglé avec cette étoile. Absolument horrible. Alors, c'est pas resté longtemps, hein, sur le site de Zara, puisque c'était en vente dans leur boutique internet. Ça a été retiré très rapidement. Il y a eu des communiqués de presse très très rapidement aussi pour s'excuser que vraiment ça allait pas le faire. Alors, on se souviendra quand même des petites histoires de Zara qui nous avait déjà fourni il y a quelque temps un sac siglé avec des croix gammées. Si. Alors, il paraît qu'à l'époque, c'était le fournisseur qui avait innové dans le dessin, qui s'en était pas aperçu. Mais comme je vous le disais, ça va très très vite, le capitalisme. Il faut vendre très rapidement. Il faut que nous, consommateurs et consommatrices, ayons envie d'acheter tous les 4 jours un nouveau t-shirt. Donc voilà, la marinière, j'ai pas réussi à savoir exactement combien ils en avaient produit et combien avait été distribué.
Mais c'est vrai que si
ça a été retiré.
On croise un gamin avec ça dans la rue, ça fait pas du tout penser à l'étoile jaune et à un truc antisémite des nazis, quoi. Mais par contre, effectivement, quand on voit ça un peu de loin, là, c'est flagrant. Donc,
Oui, puis ça soulève aujourd'hui la manière dont ces entreprises, ces multinationales fonctionnent sur la création, sur le vite fait, sur le mal fait.
Tant pis,
est-ce que tout ça engendre?
Il y a un problème d'un culture, parce que quand ils l'ont construit, ils ont mis leur étoile de shérif, ils n'ont pas vu autre chose parce qu'ils avaient la gueule contre le tissu, etc. La première personne qui a pris la photo et qui a construit le site internet, si elle avait de la culture, tout de suite, ça lui aurait sauté à la gueule que c'était un truc qui passait pas du tout. Donc voilà, c'est plutôt ça qui fait peur, c'est le manque de réaction des gens qui ont bossé, parce qu'il y a sûrement plein de gens qui ont bossé sur le truc, sur les photos, sur le site internet. Il a fallu attendre la réaction d'internautes pour faire enlever ce... Voilà, c'est pas rassurant. Ça se voulait pas antisémite non plus.
A priori, non. C'est juste du capitalisme raté. Moi, j'espère que ça va leur coûter bien, bien cher, en tout cas, à Zara. On va parler maintenant de Pernod Ricard. C'est la grosse annonce de cette semaine, puisque Pernod Ricard, numéro 2 mondial des spiritueux, un alcoolier, comme on dit, va supprimer près de 1000 postes. On serait 900 000, on n'est pas bien sûr. Hein, c'est ce qui a été annoncé par Pierre Bringuet, le directeur général. Alors, en France, c'est le siège de Pernod Ricard à Créteil, c'est dans le Val-de-Marne, qui va perdre un certain nombre d'emplois, de postes. Alors, on serait autour de 130 postes emplois. Alors, les chiffres sont pas très stables encore, hein, puisqu'il y a des négociations en cours. Alors, par contre, si on en croit Monsieur Pringuet, grand patron, ça va pas être autant finalement que ça, puisqu'ils vont accroître les effectifs de 60 personnes sur le site de Ricard à Marseille, puisqu'à Créteil, c'est le site de Pernod. Donc en fait l'idée, vous l'avez compris, ça va être comme toujours de fusionner un certain nombre de services entre Pernod et Ricard, hein, ce qu'avait commencé déjà à faire le groupe Pernod Ricard depuis quelques années. Alors bon, pourquoi on en est là? Alors, ce qui est très drôle, alors avant, déjà je pourrais vous dire qu'il y a trois mots d'ordre dans le plan. Alors c'est un plan qui s'appelle Allegro, un joli nom, hein, pour virer des gens et faire des économies sur 3 ans, 150 millions d'euros d'économies. Alors les trois mots d'ordre, c'est prioriser, simplifier, mutualiser les ressources. Comme je vous le disais, ça va tanguer chez Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est quand même 19 000 personnes, hein, 2 800 personnes en France, donc c'est quand même de la grosse multinationale. Alors, une des raisons que moi j'ai trouvé qui était énoncée par la presse économique, c'est la Chine. Parce qu'à Chine, c'est un gros développement. Il faut savoir qu'en Chine, les produits spiritueux comme le cognac et le whisky, c'est en pleine explosion. Mais alors là, il y a une baisse. Ils en boivent plus autant du whisky et du cognac, donc Pernod Ricard, ça leur va pas, mais ils ont prévu que tout allait aller mieux dans le futur.
Donc c'est pas de notre faute, on boit assez nous, ça va.
Bah ici c'est pas trop apparu dans les chiffres, mais certes on n'est plus un secteur d'avenir, hein, comme pour oui, d'autres vrai. Entreprises. Aujourd'hui il y a d'autres secteurs et la Chine en est un. Donc c'est pour ça qu'ils leur fourguent beaucoup de cognac et beaucoup de whisky ces derniers temps. Et puis pour terminer cette page un peu éco et capitalisme, c'est Air France. Donc on a appris que le syndicat majoritaire des pilotes d'Air France KLM dépose un préavis de grève reconduit. Un préavis de grève pour la période du 15 au 22 septembre prochain, donc une chouette rentrée pour eux. Il faut dire que depuis le mois de juillet, le mois d'août, avec les premiers communiqués d'Air France, on attendait un petit peu des réactions à ce qu'eux aussi, ils ont des plans stratégiques. Alors, jusqu'à présent, il y avait un truc qui s'appelait Transform 2015. Et pour prendre la place de Transform 2015 en plan, il y en a un nouveau qui s'appelle Perform 2020. Ouais, non mais il y a de l'idée quand même, hein, chez les boss Air France KLM. Donc alors ce qui pose problème à ce syndicat, qui pourtant au début protestait pas trop, hein, contre un certain nombre de réformes, c'est qu'il trouve qu'il y a vraiment un gros manque de transparence sur la stratégie d'Air France. Alors l'idée d'Air France, pour ce qu'on commence un petit peu à en savoir, c'est qu'elle veut modifier la répartition des vols entre Air France et sa filiale Hop. Alors par exemple sur Lyon, c'est pas une destination super Paris-Lyon par exemple. Ce qui marche bien, c'est Paris-Nice. Donc ça, il est possible que dans l'avenir, ça reste une liaison Air France. Mais par contre, pour ce qui reste d'un Paris-Lyon par exemple, ça sera une liaison Hop, c'est-à-dire sur le low cost. Hein, je rappelle ce que c'est, la filiale qui est censée concurrencer Ryanair et EasyJet. Donc l'idée d'Air France, c'est un petit peu de d'enlever ses positions avec sa compagnie. Sa belle compagnie, vous avez un bel accueil et vous fourguez donc le low cost un peu plus de partout et en particulier sur certaines destinations européennes, sauf que tout ça c'est pas très clair. Et puis là le prochain c'est quand même 2020, hein, Perform 2020, donc les syndicats commencent un petit peu à se demander comment tout ça va se passer, parce que ça traîne en longueur. Alors, évidemment, le plan va impliquer qu'il y ait une flexibilité des équipages. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, on leur demanderait peut-être de travailler un coup pour Air France, un coup pour Hop. Alors, c'est aussi un gros merdier, hein, tout ça. Donc, eux, par exemple, le syndicat des pilotes d'Air France, ils proposeraient que bah, ils soient tous sous le même, la même chose, hein, la même entité. Alors, le risque, c'est évidemment que bah, ils perdent et que tout soit tiré vers le bas. Donc, eux, on imagine bien qu'ils vont essayer de se battre, même si on sait que c'est très corporatiste dans le secteur, pour que ça soit plutôt aujourd'hui ce qui est le mieux qui puisse aller à tout le monde et à tous les travailleurs d'Air France, KLM et des filiales. Bon, on va suivre jusqu'au mois de novembre, puisque les négociations sociales sont jusqu'à novembre 2014, ce qui se passe. Et je crois que nous allons pouvoir maintenant poursuivre.
Avec la rubrique Ni Dieu ni Maître. Alors cette semaine, elle n'est pas très variée. En général, j'essaye d'un peu d'équilibrer pour donner des infos plutôt négatives sur toutes les religions, notamment les trois monothéistes. Cette semaine, c'est un spécial chrétien. Alors, on va commencer. Il y a trois petites infos. La première, des infos qui sont presque. La première est presque drôle. Les autres le sont un petit peu moins quand même. Donc, la première drôle, c'est que l'Église catholique croate a refusé une autorisation de tournage au producteur de la série Game of Thrones, jugeant la scène qui devait être filmée indécente et contraire à la morale chrétienne. Alors, bon, l'interdiction de tournage nous précise les autorités ecclésiastiques concerne bien évidemment que ce qui était tourné sur le patrimoine de l'Église et non pas les autres endroits de la ville. Donc voilà, alors cette série, elle est connue, c'est une série d'heroic fantasy, et du coup, il y a pas mal de violence et pas mal de sexe aussi, et puis de femmes nues quelquefois. C'est d'ailleurs assez racoleur sur ce côté-là dans la série, il faut quand même le dire. Et c'est ça que, a priori, n'apprécient pas du tout les autorités chrétiennes croates. Donc c'est pas la première fois que ça arrive sur ce tournage-là, parce que c'est tourné donc en Croatie et en Espagne, notamment à Dubrovnik. Y a déjà eu, quand ils ont tourné à Šibenik, l'archevêché de la ville qui s'était aussi opposé. Alors eux, ils avaient trouvé une justification. Ils disent le contenu et le message de la saga ne correspond pas au code de droit canonique de 1210 prescrivant le genre de représentation pouvant être joué à l'intérieur des églises. Alors moi j'aurais envie de leur dire, vous êtes un peu con, c'est une fiction, donc forcément ça correspond pas au droit canonique, la fiction, c'est un truc inventé, ça existe pas, les dragons non plus qu'il y a dans la série. Et ce qui était le plus drôle, c'est que le maire de la ville et son adjoint, eux, ils avaient postulé pour être figurants dans la série pendant que l'église essayait de faire interdire le tournage. Donc voilà, ils se sont débrouillés pour aller tourner ailleurs, bien évidemment. Voilà. Alors deuxième chose qui est au départ drôle et qui finalement avec les attaques est le moins. Hier dans le Canard Enchaîné, un petit dessin de Cabu qui représente des migrants africains entassés sur un bateau dont l'un déclare « N'oubliez pas d'emporter un crucifix pour passer pour des chrétiens d'Irak ». Moi quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très drôle, mais tout le monde n'a pas trouvé ça très drôle, notamment l'abbé Grosjean, prêtre du diocèse de Versailles et secrétaire général de la commission éthique et politique de ce même diocèse, qui a dit que ça faisait croire que les chrétiens d'Irak étaient des privilégiés, c'est pas normal. Voilà, donc réaction des internautes chrétiens qui sont assez mécontents, qui disent que les chrétiens d'Irak ne disposent pas d'un traitement privilégié. Pourtant, c'est pas du tout ce qui a été dit cet été quand la France a accueilli à bras ouverts 40, c'est pas beaucoup, hein, 40 chrétiens d'Irak, où notamment les autorités, certaines autorités ecclésiastiques ont dit « ça serait bien que la France accueille plus de chrétiens d'Irak ». Et donc le dessin humoristique fait référence à ce genre de propos totalement inadmissibles et racistes et discriminatoires, puisqu'il n'y a aucune raison d'accueillir plus les chrétiens que les sunnites ou les chiites irakiens qui en prennent plein la gueule, que les yézidis qui se font massacrer à tour de bras, et que les athées qui sont en dessous de tout en Irak. C'est difficile d'être athée en Irak. Donc oui, on peut accueillir des réfugiés irakiens, mais la discrimination religieuse telle qu'elle a été proposée par certains chrétiens, et notamment des autorités ecclésiastiques françaises, était inadmissible, et c'est ça qui était dénoncé de manière humoristique par Cabu. Vraisemblablement, ces chrétiens-là n'avaient pas d'humour. Et puis, la dernière info, elle n'est pas drôle. Donc, c'est une histoire d'avortement, hein, qui a refait son apparition en Irlande, pays ô combien passéiste sur ce traitement-là, sur cette affaire-là. Donc au début du mois d'août, une femme sans papier qui est tombée enceinte à la suite d'un viol a été obligée d'accoucher alors qu'elle s'y était opposée en Irlande, pays de tradition catholique. On rappelle que l'avortement est interdit même pour les victimes de viol ou d'inceste. Le seul motif légal, c'est que si la grossesse met en danger la vie de la femme, encore faut-il obtenir l'accord de 3 médecins, dont 2 psychiatres et un obstétricien, pour pouvoir pratiquer une IVG. Et si on le fait de manière illégale, on risque 14 ans de prison. Le droit des femmes est à peu près inexistant sur ce domaine-là, bien évidemment, en Irlande. C'est pas lié à l'État, c'est lié au pouvoir catholique irlandais qui est très très puissant et qui impose cette chape de plomb et cette absence de liberté pour les femmes. Alors dans le détail, hein, cette victime de viol qui est arrivée en Irlande, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a demandé à pouvoir bénéficier de cet avortement en raison de ses tendances suicidaires. Donc on lui a dit que c'était pas possible. Donc elle a essayé de se suicider à 16 semaines, très exactement. Mais ça n'a pas suffi malgré sa tentative de suicide. Ensuite elle a essayé d'aller en Angleterre, mais elle n'avait pas l'argent, parce qu'en Angleterre c'est possible de se faire avorter jusqu'à 24 semaines. Elle en était à 16 semaines à l'époque. Ensuite elle rentre à l'hôpital, grève de la faim. Ils la nourrissent de force et ils la réhydratent de force. Donc pas loin de l'acte de torture, mais pour la sauver, il paraît que c'était, puis surtout pour sauver le bébé, parce qu'a priori le bébé était plus important que la femme. Donc là, lorsqu'elle décide de faire cette grève de la faim, un panel de 3 médecins est convoqué, et ils décident que la grossesse doit être menée à son terme. Donc les médecins sont aussi des chrétiens intégristes, a priori en Irlande, ou des chrétiens tout court d'ailleurs, ils sont pas forcément intégristes, hein, les chrétiens irlandais, ils sont juste un peu cons. Bon, c'est allé jusqu'au bout, et voilà, elle a accouché, contrainte, forcée, donc elle vit un enfer qui s'approche de la torture mentale, psychologique et tout ce qu'on veut. Tout ça à cause du climat réactionnaire lié à la prédominance de l'Église catholique irlandaise. Une nouvelle affaire. Alors, c'est un peu comme la dernière, il y a peut-être 2 ans, il y avait une affaire sur une femme qui était victime d'une septicémie parce qu'elle accouchait alors qu'ils avaient refusé son avortement, le bébé était mort. C'était un truc compliqué. Ça avait fait évoluer un petit peu la loi. Là, il y a eu une réaction du ministère de la Santé qui a demandé une enquête. Donc, on pourrait espérer que cette affaire ô combien horrible va peut-être arriver à faire évoluer un tout petit peu la loi irlandaise. Je pense que dans 2000 ans, les femmes auront le droit à l'avortement en Irlande, mais pas avant, à la vitesse où ça avance. Je vous rappelle quand même que depuis 83, le 8e amendement de la Constitution considère le fœtus comme une vie humaine. Donc du coup, c'est merdique. Voilà, bienvenue dans un monde de merde. On vous conseille de ne pas aller vivre en Irlande.
Alors on va parler de tout autre chose maintenant, puisqu'on va parler de photos. Nous sommes partis aux rencontres de la photographie à Arles pour cette édition 2014. Vous avez un petit peu raconté les problèmes qu'avaient pu rencontrer les organisateurs de ce festival. Il y a déjà quelques mois, vous avez expliqué que le festival se retrouvait privé d'une partie de ses lieux, étant en conflit avec la fondation Luma Arles, enfin, ou Luma Arles, ça dépend en fait quel organisme dont on parle.
Mais Luma Arles, on rappelle, c'est une fondation d'une milliardaire qui a hérité d'argent et qui...
Ouais, c'est Maya Hoffman, héritière de la Roche pharmaceutique, voilà. Donc oui, du pognon, effectivement.
Donc elle, c'est pas du pognon qu'elle a gagné, hein, elle a même pas fait ça, elle a hérité de l'exploitation des travailleurs par ses parents, et elle décide que elle a racheté des lieux sur notamment là où il y a les entrepôts, les anciens entrepôts SNCF, et effectivement il y a cette bataille avec les rencontres photographiques d'Arles qui est quand même une chose très importante au niveau de la photo et notamment de la photo d'art contemporain. Et effectivement, c'était une guéguerre un peu d'ego, mais c'est quand même elle qui est vue comme la méchante, hein, sans problème là-dessus, puisque voilà, c'est juste une milliardaire qui veut se la péter et qui veut être dans l'art au détriment des autres et casser le travail des autres.
Elle a été largement soutenue par les politiques politiques locaux qui déjà ont vendu ces terrains à cette femme, donc Maya Hoffman.
Ils ont laissé faire. Elle a amené de l'argent et qu'elle promet.
Elle a amené de l'argent, elle a amené des choses. En même temps, elle promet un peu rien puisque pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui a été négocié exactement avec les autorités locales, les autorités politiques et administratives locales. Donc, on n'a aucune idée de sort des rencontres après 2015, puisqu'à priori 2015, ça devrait à peu près se passer comme cette année. Mais pour la suite, eh ben, il n'y a rien. Et puis, elle dit, elle, Madame Hoffman, que peut-être elle leur laissera une place, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est elle qui veut récupérer l'affaire. Elle a longtemps subventionné le festival et maintenant, elle le veut pour elle. Effectivement, c'est aussi une lutte de pouvoir. François Hébel, lui, de son côté, avait permis de rééquilibrer les comptes. Il faut quand même, au moins, lui amener ça. C'est vrai qu'il était aussi critiqué parce que ça faisait longtemps qu'il était à la tête du festival. Enfin, nous, donc, on est allé voir quand même au niveau artistique et maintenant, comment ils se débrouillent. Et puis, où est-ce qu'ils se sont installés? On était un petit peu curieux.
Bon, ils ont gardé les deux grands entrepôts, anciens entrepôts.
Alors, une partie, hein, puisqu'il y a effectivement une partie des entrepôts dans lesquels ils n'ont plus d'accès, dont reste effectivement la moitié, en fait, des ateliers SNCF dans lesquels ils étaient. Et puis, ils ont investi un peu plus, on l'avait vu il y avait quelques années en arrière, des anciens locaux du Crédit Agricole, qu'ils ont appelé le bureau des Lys. Alors, un endroit qui, au début, nous a posé des questions.
C'est super moche.
Alors, à l'intérieur, c'est effectivement super moche. Alors, à l'intérieur, on y trouve, entre autres, une exposition de Martine Parr, photographe que vous connaissez certainement, et du collectif Wassim Klungendren. Vous m'excuserez, mon hollandais n'est pas très bon. Alors, ils se sont intéressés aux livres de photographie chinois. C'est intéressant au niveau historique d'avoir dans ces salles une succession, donc selon les époques, des livres et de la propagande donc dans ces ouvrages chinois.
Avec le visionnisme habituel, les photos effacées, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Hein.
Et en même temps, le détail, comment la femme est belle, comment elle le sert aussi la collectivité. Enfin voilà, c'est très intéressant dans ces salles. Comme tu dis, c'est assez moche.
Le lieu est ultra moche. Quoi.
On nous donne en fait des petits éclairages, des lampes pour voir dans le noir. Et nous, on s'est quand même posé la question sur ces différents étages dans lesquels il y a d'autres expositions. Si effectivement c'était lié, c'était un choix par exemple de Martine Parr et du collectif de nous laisser un peu dans le noir avec juste petite lumière. Et puis c'est vrai que le fait de parcourir d'autres expositions, on s'est mis à douter. Alors on a été posé la question et non, c'était pas pour des problématiques techniques, c'était
exprès.
Un choix, et alors là on s'est dit on n'a pas compris parce que si ça pouvait se porter sur une partie de l'exposition sur ces livres chinois, ça devenait très vite gonflant et assez limite. On aurait préféré que ce soit pour des raisons techniques finalement qu'ils aient pas pu câbler correctement l'électricité ou je ne sais quoi d'autre, ou que ça abîme peut-être certaines des photographies mises en place. Donc voilà, il y a une espèce de décalage et il y a un jeu qu'on peut retrouver parfois sur des gens qui mettent en scène ces expositions et sur les choix des photographes, c'est pas toujours réussi. Là ça l'est pas vraiment, mais enfin, le contenu quand me reste intéressant, donc c'est au bureau des Lys. Alors, on va vous parler un petit peu d'autres expositions pour des côtés pratiques. Sachez que c'est jusqu'au 21 septembre à Arles. Ça reste un rendez-vous assez cher si vous avez envie d'y aller. Donc, par exemple, cette exposition dont on vient de vous parler pour faire l'ensemble du bureau des Lys, ça coûte 12 euros si vous achetez une place comme ça, juste pour cette expo. Et après, on monte sur 20 et 30 euros à partir du mois de septembre, quand on veut être à la journée ou sur plusieurs jours. Mais ça reste excessivement cher. Mais on a envie de vous parler quand même de ces artistes parce que c'est des gens que vous pourrez peut-être retrouver ailleurs.
Oui, il y a pas mal de choses bien. Il y a des choses qu'on avait déjà vues. Enfin, il y a un peu de la répétition.
Oui, on dirait aussi qu'il y a un hommage à Lucien Clerc, par exemple.
Qui est un peu trop important, moi, je trouve. Mais on découvre qu'il a fait quand même pas mal de choses.
Il y a une très belle interview de lui qui est très intéressante. En tout cas, très belle, je ne sais pas, mais qui est très intéressante sur une partie des expositions. Mais c'est vrai que les expos sont un peu longues.
Et puis, moi, j'ai retenu deux expos. Qui était vraiment très très bien. Tu vas me dire parce que j'ai peut-être...
Alors tu vois, tu as retenu chez Mamadoz, un madrilène, une exposition donc au magasin électrique dans un des ateliers de la SNCF. Très beau, je crois que toi ce qui t'a beaucoup plu c'est évidemment le côté surréaliste.
Oui, alors c'est quelqu'un qui fabrique sa photo, donc qui fabrique d'abord un objet qui est surréaliste, où il y a un truc qui ne fonctionne pas.
Alors c'est un objet banal, ça peut être une fourchette, un verre, une paire de lunettes, un dé.
Voilà, il la met en scène, il trouve un côté bizarre, surréaliste, etc. Et après, il prend la photo, en général au moyen format.
On est sur du noir et blanc.
Du noir et blanc essentiellement. Et là, il y a une grosse expo avec beaucoup de photos et ça fonctionne super bien sur la majorité des photos. C'est vraiment un très bon travail graphique, ce qui fait très
créatif.
C'est
le jeu de la perception, comment aussi détromper notre sens qui regarde, qui voit, mais qui en fait ne voit pas correctement. C'est une exposition à ne pas manquer si vous avez l'occasion, puis à découvrir chez Mamados, parce qu'on trouve pas mal de choses sur internet. Il a quand même beaucoup exposé. On avait aussi peut-être envie de vous parler de Denis Rouvre. Denis Rouvre, alors c'est une exposition qui a lieu dans une toute petite église qui s'appelle l'église Saint-Blaise. Si vous connaissez, elle est un petit peu en retrait. Souvent, il y a eu des expositions découvertes. Et là, on a eu cette exposition Denis Rouvre qui s'intègre parfaitement dans ce lieu. Denis Rouvre, c'est quelqu'un qui est assez connu pour ses portraits de stars. Et puis, depuis quelques années, il s'est mis photographier des gens à la vie ordinaire, anonyme. Et là, il les interroge et c'est une exposition qui s'appelle Identité, territoire de l'intime. Donc, c'est une exposition, une projection de photos accompagnée d'une bande-son.
Où les gens disent comment ils perçoivent leur identité française. Et c'est très intéressant parce que, du coup, le panel est ultra varié.
S'il n'y a aucune provocation, c'est pas du tout le but de cette exposition.
Alors, la majorité des gens ne savent pas définir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en France, on ne sait pas définir ce qu'on a. Il y en a qui disent que c'est la langue qui définit qu'on est français. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ne peuvent pas se définir. D'autres, ils sont un mélange de plein de choses. Enfin, il y a tous les discours possibles, même les discours racistes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a 3-4 personnes qui ont un discours en disant français c'est être né là, d'avoir un discours un peu xénophobe mais il y a une énorme diversité et du coup on est plongé dans toutes ces histoires parce que c'est très court, les interventions c'est que des extraits, donc chaque fois il y a grosso modo une ou deux phrases dites par les gens photographiés qui racontent un tout petit bout de leur vie parce que c'est un bout de leur vie la perception. Il y en a qui disent moi je suis né au Niger et là je me sens là, je me sens ça, je me sens c'est vraiment
et les photos sont magnifiques. Elles apparaissent, donc comme c'est une projection, on a l'impression que c'est du noir et blanc, ça l'est pas du tout, c'est de la couleur. Il y a un très bel éclairage, il est connu pour ses portraits, Denis Rouvre. Donc ça nous a beaucoup plu. Et puis on pourrait parler, toi tu avais beaucoup aimé aussi ce travail de Vic Menis, travail de très grand format à l'église dite Trinitaire, donc au cœur de Arles.
Alors là, c'est en marge de la photo. En fait, il prend des cartes postales. Au départ, il prend une photo, par exemple, d'une plage au Liban, et il la reconstruit avec des cartes postales, des bouts de cartes postales. De près, ça fonctionne pas du tout. On voit des bouts mis comme ça, collés, découpés. Et quand on s'éloigne, on retrouve l'image de départ.
Et on retrouve une image, et après, c'est des images dans l'image, puisqu'à l'intérieur, effectivement, quand on se rapproche, et bien d'un seul coup, on découvre aussi des choses. Donc c'est vraiment jouer avec, encore une fois, que nos perceptions, c'est des portraits, donc il y a du noir et blanc et de la couleur, enfin du noir et blanc, du faux noir et blanc, donc c'est du grand format, et puis il raconte une histoire aussi en reprenant des très vieilles cartes postales des années 60, c'est sa grande spécialité, et puis il arrive à extraire tout ça, donc par exemple il a fait des vues de Paris, des vues d'une plage de Beyrouth, le grand format joue aussi beaucoup, il a fait aussi des séries plus intimistes avec des portraits, on retrouve après d'un seul coup une répétition aussi de objets à l'intérieur de ces immenses donc du coup à plat, puisqu'il va rescanner le tout en fait pour ensuite nous proposer ces photographies. C'est vraiment une très belle installation. Et puis moi j'avais envie de vous parler de deux auteurs qui ont été mis dans les séries découvertes, qui sont à l'atelier de chaudronnerie. C'est de très belles photos de Zhechun Zhang. Je ne sais pas, Laurent, si tu te souviens, mais j'avais envie d'en parler. Des photos avec des couleurs pastel absolument magnifiques, souvent très désertiques, avec une espèce d'ironie aussi entre l'homme, la machine, l'usine, l'installation, enfin le paysage. C'est très particulier. Il est assez jeune, Zhechun Zhang. Il est né en 1980 en Chine. Donc voilà, c'est un tout jeune artiste. Nous, on a beaucoup aimé son travail. Et puis, en face, moi, je vais parler de Yongsu Han. Son travail s'appelle En convalescence. Alors, il est mort en 1999. C'est un photographe sud-coréen qui, malheureusement, n'a pas eu la gloire qu'il mérite. Et aujourd'hui, ses photos ont été remises à l'honneur et le sont toujours, donc, dans le cadre de ses rencontres d'Arles. puisque on découvre à travers ces photographies la Corée des années 50. On y voit des portraits, des scènes de rue. C'est saisissant de voir en même temps une transformation de ce qu'est aujourd'hui, par exemple, Séoul, en quelques décennies. Donc c'est voilà un vrai historien de la photographie qui est proposé dans cette série découverte aux ateliers de la Chaux-de-Rosny. Nous, qu'on a beaucoup aimé aussi, donc évidemment du portrait là, noir et blanc, et du paysage noir et blanc.
Voilà, donc c'était à Arles cet été, ça dure jusqu'au 21 septembre. C'est dans les festivals photo, hein, en France, on peut dire qu'il y a, oui, c'est un peu la mode la photo depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. En septembre va avoir lieu le festival à Perpignan, ce qui est orienté photojournaliste. Alors là, par contre, c'est plus du tout
Visa l'art. Visa pour l'image.
Voilà. C'est tout gratuit, par contre, à Perpignan, c'est ça qui est impressionnant aussi. Il y a le festival de la Gacilie, qui a lieu chaque été à la Gacilie, qui est un festival en pleine air. Voilà, il y a pas mal de choses autour de la photo, mais Arles, ça reste au niveau de la photo d'art, notamment, et d'art contemporain, quand même la référence. Moi, je suis, voilà, à chaque fois, je trouve ça quand même très très bien.
Il fait toujours de belles rencontres, effectivement.
Bon, on retourne sur un sujet d'actualité, mais qui date de cet été et qui m'a énervé, donc je voulais en reparler. On va parler d'Emmanuel Valls, donc on va pas faire le tour de ce remaniement. De toute façon, les socialistes, on n'y croyait pas quand ils ont été élus, donc on va pas y croire maintenant, bien évidemment, malgré, enfin, encore pire avec leur virage social-libéral assumé. Non, je vais revenir sur ce qu'il a dit le 19 août au coup d'envoi des commémorations du 70e anniversaire de la ville de Paris. Puisqu'il a rendu hommage au sacrifice, je cite, hein, au sacrifice des policiers parisiens, dont le soulèvement du 19 août 44 fut le premier acte de l'insurrection contre l'occupant allemand dans la capitale. Donc il a reparlé du courage, du sacrifice, et je recite, après il a dit, ici même, il y a 70 ans, la police parisienne prenait part au rétablissement de nos institutions et à la restauration de notre idéal démocratique et républicain. Moi, je trouve ça inadmissible, ce révisionnisme historique que pratique M. Valls au sujet des forces de répression françaises et là donc de la police. Si on regarde les faits sont totalement à l'opposé de ce qu'il a dit. Si on prend le cas des juifs, par exemple, en 1940, il y avait environ 330 000 juifs en France. Moitié-moitié français, moitié-français, l'autre moitié étranger. Dans les Français, des gens qui sont là depuis très très longtemps et quelques 60 000 à peu près qui ont immigré en Europe de l'Est au début du 20e et qui ont été naturalisés dans les années 30. Donc voilà la population donc en 1940. Entre 42 et 44, 76 000 juifs vont être arrêtés et déportés dans les camps d'extermination. 79 convois vont être organisés. 2500 vont revenir seulement sur les 76 000. Toutes ces arrestations, ces déportations et donc finalement ces morts sont dues à la police française et à la police parisienne. Alors certes, il y a la rafle du Veldiv qui est ultra connue, mais il y a eu 79 convois, donc des rafles, il y en a eu tout le temps. Et ça a toujours été fait par la police. Donc on peut dire que oui, en 44, la police s'en tournait le truc et d'un seul coup, elle devient résistante, comme une partie des Français. Mais moi, je glorifierai jamais des gens qui ont emmené à la mort plus de 70 000 personnes. Donc voilà, ça me paraît totalement inadmissible, ce révisionnisme. Alors ça, c'est pour les juifs, mais si on parle des non-juifs, des résistants. On a des infos qui ont été données lors du procès du préfet Amédée Bussière en 46. Il est fait mention de l'arrestation de 16 553 personnes entre juin 42 et août 44 pour propagande communiste ou gaulliste. Hein, grosso modo, les résistants, quoi. Donc là, les arrestations, c'est les forces de police, hein, qui ont arrêté, police militaire 3400, 11 285 par les RG. On rappelle que la dangerosité des fichiers, ça a entraîné les arrestations de juifs et de résistants. Hein. Et 1868 par la police judiciaire. Donc voilà, alors il faut reconnaître qu'au début, quand même, il y a assez peu de résistants dans la police. Il faudra attendre de nombreux mois, voire années, pour qu'apparaissent par exemple, Police et Patrie, France Combattante et Honneur de la Police, trois groupes de policiers résistants qui resteront ultra minoritaires au sein de la police et qui ne méritaient pas, en tout cas, une glorification générale des forces de répression qui ont été au service de Vichy et des nazis entre 40 et 44. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur tout ce que j'ai dit, il y a plusieurs livres de Maurice Rafjus, Rafjus, j'y arrive jamais, qui a écrit pas mal de choses sur la police, puisqu'il y a eu un gros révisionnisme en France sur ce qu'on fait, notamment les fonctionnaires et les fonctionnaires policiers. Et Maurice Rafjus a beaucoup travaillé sur les violences policières et notamment pendant cette période horrible de la collaboration. Donc voilà, grosso modo, la police était plus à blâmer entre 44 et 40 que à glorifier comme l'a fait Manuel Valls. C'est un vrai gars de droite, hein. Il aime les flics qui déportent les juifs et il aime les patrons. On a vu qu'il avait été ovationné par les patrons. C'est pas gagné quand même. On est revenu de vacances dans la déprime. Merci, monsieur Valls. Alors qu'on était revenu avec du soleil. Enfin, pas en France, mais ailleurs. Donc, le soleil est revenu à Lyon. Nous allons parler du Japon, qui a des soucis de météo tous les étés. Mais je vous rassure, cette année, malgré quelques typhons, quelques inondations, aucune centrale nucléaire n'a pété. En même temps, il n'y en a plus qui fonctionnent, ou très peu. Par contre, on a quelques infos sur TEPCO, puisque... C'est historique, la compagnie a été condamnée à payer 365 000 euros de dédommagement à la famille d'une personne dont le suicide a été motivé par la ville bouleversée à cause de l'accident nucléaire de Fukushima. C'est la première fois que ce type de plainte aboutit jusqu'à une condamnation en justice. Alors la personne, elle avait 58 ans, c'était le 1er juillet 2011. C'est lors de son retour sur un temps très court dans sa maison de Kawamata, un village situé à 40 km qui a été évacuée, qui était en forte dépression, et quand elle est revenue dans sa maison, dans laquelle elle n'a plus le droit de vivre, elle a craqué, elle s'est suicidée. Donc c'est suite à ça que sa famille avait déposé plainte. Voilà, ça rappelle que 125 000 Japonais ont fui leur domicile, ils sont dans des situations extrêmes, et que voilà, c'est bien de la faute de TEPCO, entreprise qui avait des centrales nucléaires par choix et non par obligation. On reste dans le nucléaire avec une info intéressante. Si vous connaissez un peu la CGT, vous savez que la CGT dont les militants travaillent dans le nucléaire, c'est la section mines et énergie, sont souvent très pro-nucléaire. Moi, je me rappelle avoir fait un débat au Larzac lors de l'anniversaire du Larzac avec ces gens-là. Et ben, il y a de la réaction à la CGT. Alors, on rappelle Thierry Lepaon, qui est donc le nouveau chef suprême de la Confédération générale du travail, avait dit à Mulhouse le 12 juin dernier, je cite. Rien ne justifie aujourd'hui la fermeture de la centrale nucléaire donc de Crémalville de Fessenheim. Il avait évoqué un gâchis humain, économique, une idiotie, enfin bon, plein de choses. Sauf que ça fait réagir d'autres gens à la CGT, et notamment la CGT Équipement et Environnement d'Alsace. Et c'est la responsable, la secrétaire de la coordination fédérale, Geneviève Manca, qui a écrit une lettre qui a été rédigée collectivement, mais c'est elle qui l'a signée, où elle met en doute la représentativité de la parole du leader de la CGT et demande une consultation des militants sur le sujet des centrales nucléaires, puisqu'elle considère pour sa part qu'il est urgent, je cite, de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, voire d'autres. Elle explique, elle reprend grosso modo les arguments des écolos, hein, les difficultés croissantes d'approvisionnement en uranium, hein, qui est 100% importé, on le rappelle, la gestion des déchets, la réévaluation du coût global de la filière, l'état déplorable quand même des centrales, qui impose donc de lourds investissements, les risques sanitaires dont sont exposés les salariés du nucléaire eux-mêmes, pas que les populations autour en cas d'accident. Donc voilà, la CGT Équipement Alsace rajoute aussi que le nucléaire est aussi défendu par une vision capitaliste de l'énergie, notamment qui sont accentués par des effets pervers liés au monopole d'EDF sur l'énergie en France. Voilà, plein de dénonciations. Alors, pour l'instant, les réactions Geneviève Manca ont été plutôt positives, notamment venant des cheminots. C'est pas étonnant, on savait que les cheminots étaient... plutôt à gauche au sein de la CGT. Vous allez me dire, la CGT, c'est forcément à gauche. Pas sur tous les domaines, quand même, il faut le rappeler. La direction a pour l'instant pas réagi. On espère que ça va faire un petit peu bouger, notamment la CGT Mines et Énergie, qui a quand même un lourd passé de défense du nucléaire, qui est quand même assez condamnable. Et pour terminer sur l'environnement, c'est une nouvelle qui nous vient du journal Les Échos, si je me trompe pas, en tout cas d'Économiste. Donc c'est pas du tout une nouvelle environnementale, mais qui nous parle du prix de l'énergie solaire et qui, c'est un cabinet qui a fait une étude très exactement, qui dit dans les pays ensoleillés, donc les pays ensoleillés, c'est pas l'île par exemple, hein, c'est plutôt l'Afrique, enfin plein de pays comme ça, on pourrait dire l'Australie, des pays qui ont beaucoup beaucoup de soleil et qui souvent, ce qui est pas le cas de l'Australie mais pour l'Afrique, ont pas beaucoup de moyens non plus. Et ben lui il explique qu'au niveau économique, dans ces pays, le coût de l'électricité photovoltaïque a diminué de 75% et aujourd'hui est l'électricité à produire la moins chère dans ces pays où il y a beaucoup de soleil. Alors, lui, ils expliquent donc avec plein de détails, hein, la baisse du prix des panneaux de solaires, notamment suite à l'augmentation de la fabrication en Chine, le fait que y ait du soleil tout le temps, qu'il y ait plein de place pour poser ces panneaux solaires. Enfin, il y a toute une explication comme ça qui, comparée aux autres coûts de l'électricité, font que c'est beaucoup moins cher, parce que alors dans ces pays-là, comment on fait pour faire l'électricité? Grosso modo, on fait avec du pétrole qui coûte donc du diesel qui coûte 60% plus cher, du pétrole 50% plus cher. Ça serait juste plus cher avec du gaz raffiné. Donc ça serait vraiment une bonne nouvelle. Il suffit maintenant que dans ces pays-là, ils investissent dans le solaire, qu'ils sortent de la propagande qui dit que pour avoir de l'électricité pas chère, il faut faire tout sauf de l'environnement, de la protection de l'environnement, puisque là, on est dans un cas où, effectivement, le solaire est moins cher que toutes les autres énergies. À savoir, quand même, on l'a déjà dit, que l'éolien en coût réel de comparaison va être moins cher que le nucléaire par exemple, et que le solaire peut devenir moins cher que le nucléaire. Alors pas en France, hein, parce que le nucléaire est subventionné, que les centrales nucléaires, l'exploitant ne paye pas d'assurance, enfin il y a plein de trucs qui font que l'électricité est moins chère pour des raisons d'inégalité par rapport aux autres énergies. Mais voilà, c'est ça démontre une fois de plus, et c'est fait par quelqu'un qui est pas du tout écolo, que le nucléaire ou le pétrole, c'est pas des énergies d'avenir, et que c'est plutôt le soleil ou le vent, hein, puisque le vent est en développement aussi, qui sont des énergies d'avenir.
Eh ben, nous allons pouvoir continuer avec un petit agenda, peut-être.
Oula, il nous reste très exactement 15 secondes avant la sonnerie 20h de la plus rebelle des radios. L'agenda se limite à demain soir, enfin ce que j'ai retrouvé moi, à 20h30, place des Terreaux, il y a une veillée pour Gaza. Donc vous allez, je crois, avec votre flambeau et votre bougie, machin, et un truc qui fait de la lumière. Hein. Même votre lampe de poche, ça doit marcher aussi, ce sera moins joli. Donc à 20h30, pour cette veillée pour Gaza. Ce qu'on rappelle, c'est la énième destruction de Gaza, qu'il va falloir reconstruire. Et comme d'habitude, d'ailleurs, l'Europe va donner de l'argent pour reconstruire, ce qui est totalement inadmissible, puisque l'Europe aurait dû plutôt se mobiliser pour empêcher la guerre. Ça aurait coûté moins cher en argent et en vie humaine, mais a priori, la vie humaine des Palestiniens n'a pas beaucoup de valeur. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que l'Europe n'a rien fait. C'est parce que cette vie humaine n'a pas de valeur aujourd'hui.
Eh ben, on va vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle émission, un nouveau Canu Info. Et puis, effectivement, la radio se réveille progressivement. Alors, évidemment, il y a toujours des émissions qui, chaque année, ne partent pas en vacances et s'accrochent et restent là et animent notre super radio. Mais progressivement, là, il y a quand même tous ceux et toutes celles qui étaient en vacances qui vont reprendre l'antenne et ce sera une occasion pour vous de découvrir peut-être aussi de nouvelles émissions, hein, changer un petit peu vos horaires et vous verrez, il y a plein de super trucs sur Radio Canu.
Voilà. Après, nous, normalement, c'est la petite cuillère, l'émission anticarcérale de Radio Canu, mais ils sont pas revenus de vacances, ou ils sont pas là aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, la prochaine émission devrait être à 21h, l'antichambre, si tout va bien. Sinon, vous avez de toute façon l'occasion d'écouter les bandes continues magiques de la plus rebelle des radios. Voilà, rendez-vous demain pour le prochain Canu Info, s'il y en a. C'est tous les jours de la semaine, mais doucement, hein, doucement, avant la reprise générale. On rappelle que Radio Canu est une radio faite entièrement par des bénévoles. Donc effectivement, les bénévoles, des fois, partent en vacances pour se reposer. Donc c'est pour ça qu'on a moins de continuité estivale que des radios avec des salariés, puisqu'ils ont des remplaçants, des CDD, des trucs comme ça. Le bénévolat CDD est pas encore très courant. On n'a pas trouvé pour se faire remplacer les semaines où on part en vacances.
Eh ben, à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à vous. Ciao.
Bye bye. Bye.